D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, quand Stéphane m'a demandé de m'inviter à participer à ce séminaire, à ces journées d'études, j'ai évidemment été tout à fait enthousiaste pour répondre à l'invitation. Évidemment, comme il l'a dit, parce que au sein du bureau de l'éducation prioritaire, nous portons la réussite éducative et vous pourriez effectivement considérer que la réussite éducative, finalement, après la disparition du ministère délégué à la réussite éducative, pourquoi en parler encore alors que nous pensons effectivement au niveau de l'éducation nationale que ça reste une question vive et je pense par mon propos vous expliquer pourquoi. Par contre, effectivement, j'étais un petit peu réticente au titre qui m'avait été donné, en tout cas que Stéphane m'avait suggéré, c'est-à-dire refondation de l'éducation prioritaire et réussite éducative. Alors, je vais aussi vous expliquer pourquoi j'étais réticente et comment finalement j'ai essayé de contourner cet obstacle qui m'était posé. Alors. Pourquoi je suis réticente et j'étais réticente à associer, bien que dans le bureau, bien évidemment, nous avons la réussite éducative, pourquoi j'étais réticente au fait d'associer éducation prioritaire et réussite éducative? D'abord, je pense parce que il me semble qu'il faut lever une première ambiguïté qui est celle de considérer qu'il y aurait la réussite scolaire pour les uns et la réussite éducative pour les autres. Et d'une certaine manière, de faire de la réussite éducative le substitut de la réussite scolaire pour les élèves qui seraient les plus fragiles, les plus en difficulté. Et pour le dire encore plus directement, je dirais que si on sépare ou si on le fait effectivement de la réussite éducative un substitut de la réussite scolaire, c'est de considérer implicitement qu'il y aurait des apprentissages scolaires qui seraient nobles pour les uns et des apprentissages éducatifs qui seraient plutôt vulgaires pour les autres. Donc, la réussite éducative et la réussite scolaire, en tout cas la réussite éducative, n'est pas un supplétif de la réussite scolaire. La réussite éducative comprend la réussite scolaire. Et elle ne se réduit pas à la réussite scolaire, mais elle la comprend. Et je vais essayer de vous montrer, de vous dire un petit peu l'acception que nous avons aujourd'hui au sein du ministère de la notion de réussite éducative. La difficulté, tout d'abord pour nous, par rapport à cette notion un peu polysémique de réussite éducative, c'est que quand on parle de réussite éducative, ça renvoie aux années 90, et à un ensemble finalement de dispositifs d'accompagnement à la scolarité, qui s'adressait aux élèves, qui s'adressait aussi aux parents et qui recouvrait des modalités de pilotage très différentes, c'est-à-dire qui pouvaient être à la fois internes à l'éducation nationale, mais aussi externes. Le terme de réussite éducative est accolé évidemment au programme de réussite éducative qui apparaît en 2005 et qui est effectivement l'idée d'aider les élèves dans une démarche personnalisée, élèves identifiés par dont les difficultés ont été identifiées au sein de l'école et qui sont prises en charge par de manière externe par une équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. À ce PRE, à ce programme de réussite éducative de 2005, il y a son pendant qu'on connaît moins, que vous connaissez peut-être moins, qui est le PPRE en 2006, qui est le programme personnalisé de réussite éducative. Et qui visait en fait qui était destiné aux élèves en difficulté et qui était en difficulté dans l'apprentissage des compétences et de connaissances pour dans le cadre du socle ou qui avait des difficultés en matière comportementale. Pour autant, bien évidemment, la réussite éducative ne peut pas se limiter au dispositif d'accompagnement à la scolarité. Et donc, pour nous, elle s'inscrit depuis effectivement la parution du pacte pour la réussite éducative de novembre 2013 dans une acception beaucoup plus large qui est, je cite le pacte, la recherche du développement harmonieux de l'enfant et du jeune. Et je dirais qu'au-delà de ce qui est dit là, elle promeut finalement un acte éducatif en faisant un acte d'éducation globale qui prennent à la fois l'enfant où l'adolescent, dans son unicité, dans toutes ses dimensions, qu'elles soient sociales, cognitives, psychiques, physiques ou affectives, mais aussi le territoire dans lequel il s'inscrit. Donc en mettant l'accent en avant, en tout cas, l'approche globale de l'enfant et de l'adolescent, donc la démarche de réussite éducative entend articuler ce qui est la position un peu qui travaille le système éducatif dans son ensemble, qui est l'opposition instruction-éducation. Et ce que porte effectivement la réussite éducative, c'est d'essayer de penser ensemble l'éducatif dans l'école, l'éducatif en dehors de l'école, essayer effectivement de les penser ensemble pour pas les différencier. Alors, quelle articulation existe-t-il entre éducation prioritaire et réussite éducative telle que je viens de la définir? En fait, il me semble que c'est moins l'opposition instruction-éducation qui est là mise en exergue que le fait d'être dans universalisme posé par le principe d'égalité et relativisme. D'une certaine manière, pour le dire autrement, c'est comment on prend en compte le spécifique afin de mieux atteindre en tout cas l'universel, et non pas pour mettre à mal cet universel. Si je prends la politique de l'éducation prioritaire telle que la loi de la refondation et telle que la loi en tout cas concernant l'éducation prioritaire a été pensée. Cette politique de l'éducation prioritaire, elle n'est pas dérogatoire au droit commun. C'est-à-dire que c'est pas une politique spécifique, adaptée au sens de spécifique pour des élèves, et on ferait autre chose avec d'autres qui seraient hors de l'éducation prioritaire. La politique de l'éducation prioritaire, elle est spécifique, mais dans le sens où elle est adaptée au territoire. Elle prend en compte les territoires dans lesquels elle s'inscrit, sachant que, bien évidemment, les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes dans une classe. Quand vous avez un ou deux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, et quand vous avez une classe avec un tiers ou 50% des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, la refondation de l'éducation prioritaire, finalement, de 2013-2014, s'inscrit dans les principes de ses débuts, donc de 81, dans le sens où, à l'époque, le politique prend acte du fait que l'égalité, qui est affirmée dans notre devise républicaine, n'est pas, d'une certaine manière, est une égalité qui est certes de droit, mais qui n'est pas une égalité de fait. Et que pour que celle-ci devienne une égalité réelle, il faut donc renforcer les moyens en faveur des élèves scolarisés dans les écoles et dans des établissements de l'éducation prioritaire et aussi en direction des personnels qui y travaillent. Ces territoires sont définis comme effectivement concentrant le plus de difficultés, à la fois sociales et économiques, difficultés qui sont telles qu'elles nécessitent une politique adaptée. Politiques adaptées qui permettent des meilleures conditions d'apprentissage et un accompagnement renforcé du parcours des élèves. Quand effectivement vous avez une situation entre deux établissements qui est inégalitaire, l'égalité c'est pas de donner la même chose aux deux, l'égalité c'est de donner plus à certains, de renforcer les moyens pour certains et de donner évidemment moins aux autres. Donc l'égalité, c'est pas d'une certaine manière de nier la diversité, c'est de la prendre en compte, mais de faire en sorte que cette diversité ne génère pas des inégalités. C'est en quelque sorte une politique de péréquation. Cette nouvelle politique de l'éducation prioritaire, elle s'appuie sur ce qui fonctionnait déjà, puisque l'éducation prioritaire, comme vous le savez, est organisée en réseau. Réseau qui, la tête de réseau, c'est le collège. Lui sont rattachés un certain nombre d'écoles primaires. Et il y a, dans l'idée, effectivement, de l'éducation prioritaire et dans aussi l'idée de ce qui se met en place avec le nouveau cycle CM2-6e, d'un travail entre le primaire et le collège, avec un pilotage conjoint entre le principal de collège, l'IEN en charge de la circonscription se trouvent les écoles, et ce qu'on appelle dans notre jargon un IIPR, donc un inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional, référent pour l'éducation prioritaire, en charge plutôt du second degré, et tout ce trinôme pilote au sein d'un comité de pilotage le réseau. Pourquoi je vous parle de ce réseau et de ce comité de pilotage ? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de partenaires, et dans ces partenaires, il peut y avoir effectivement des associations, il peut y avoir aussi des collectivités territoriales. Ce comité de pilotage est ouvert en tant que de besoin à un certain nombre de personnes. Cette refondation de l'éducation prioritaire entend formaliser et renforcer par des moyens supplémentaires à la fois humains et matériels, le collectif, avec un travail en équipe qui est institué, avec l'apparition de nouvelles professionnalités, le coordonnateur de réseau qui existait, le coordonnateur de niveau qui est l'ex-préfet des études, et puis les petits derniers qu'on appelle les formateurs REP+, qui viennent en appui sur la formation des collègues sur le terrain. Donc il y a un accompagnement, une formation plus soutenue et puis la mise en place de dispositifs que la loi de la refondation de juillet 2013 a initiés, tels que le dispositif plus de mètres que de classe, ainsi que les opérations telles que l'école ouverte ou l'accompagnement éducatif, qui sont plus particulièrement ciblées sur ces territoires. Mais en même temps, avec cette réforme, on a quand même un objectif qui est de réduire, on doit ramener 10% des écarts de réussite scolaire entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui sont scolarisés hors éducation prioritaire. Et donc, nous avons nous avons fait une réforme pas tant organisationnelle que pédagogique. C'est-à-dire que l'objectif premier de cette réforme, c'est une réforme pédagogique. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est convaincu que la réduction des écarts des résultats scolaires passe par des changements de pratiques au sein des classes. C'est entre autres pour cela qu'a été produit le référentiel de l'éducation prioritaire avec ses 6 axes. Le premier axe étant sur la maîtrise des compétences, notamment en français, la langue, maîtrise de la langue, et sur un enseignement explicite. Ce référentiel de l'éducation prioritaire, c'est un référentiel qui aborde la question des partenariats, la question des parents, qui aborde la question du pilotage, enfin qui est finalement un document systémique sur, à partir de là, voilà comment on peut réfléchir et comment on peut travailler autrement, ou en tout cas mettre en œuvre des pratiques pédagogiques qui véritablement aideront les élèves à rattraper le retard qui est le leur. Et je voudrais faire une incise pour vous dire que, au sein du ministère, parfois nous avons une certaine cohérence dans nos principes, c'est que vaincre le décrochage scolaire, il y a aussi dans le volet prévention de ce plan l'idée que pour vaincre le décrochage scolaire, il va aussi falloir changer nos pratiques au sein de la classe, nos pratiques pédagogiques au sein de la classe. Alors, en même temps, je dirais que pensent que la politique au sein de l'éducation prioritaire est une politique d'avant-garde. Pourquoi ? Parce que les élèves en difficulté d'apprentissage ne sont pas réservés à l'éducation prioritaire, bien évidemment. J'ai dit qu'il y avait concentration d'élèves en difficulté, mais que effectivement le système génère effectivement des élèves en difficulté un peu partout. Et d'une certaine manière, ces élèves en difficulté, ils interrogent le système éducatif, je dirais, dans ses modalités même de fonctionnement. Et Jean-Paul Delahaye, qui est inspecteur général, qui a été l'ancien directeur général, qui est actuellement en charge d'une mission sur la grande pauvreté et la réussite scolaire, disait par exemple que le référentiel, il dit toujours, que le référentiel d'éducation prioritaire a vocation à être diffusé partout. Alors, je dirais qu'il s'agit moins de le diffuser partout, parce que sinon on enlève quand même la spécificité à l'éducation prioritaire, que d'en propager l'esprit. C'est-à-dire que, effectivement, quand on écrit dans le référentiel de l'éducation prioritaire, conforter une école bienveillante et exigeante, on voit ce que le système éducatif dans son entier peut tirer d'un tel principe à l'égard des parents, à l'égard de l'évaluation. Il y a eu dernièrement quelques débats, une conférence de consensus sur l'évaluation. Donc le changement qui est demandé ici, d'une certaine manière, c'est moins sur les modalités proprement dites de l'évaluation, ou c'est moins sur ce qu'on doit dire aux parents. Ce qui est demandé ici, finalement, c'est comment on regarde autrement les parents, comment on regarde autrement les élèves, comment on passe d'une posture de jugement, souvent morale, à une posture de compréhension de l'autre, et comment, finalement, en un mot, on change de posture professionnelle. Et effectivement, vu de là, ce qui est valable en éducation prioritaire est effectivement valable dans l'ensemble du système éducatif. Donc, vous voyez d'une certaine manière qu'il y a convergence entre l'éducation prioritaire et la réussite éducative dans la manière, pas tant dans les publics qui sont ciblés, que dans la manière de penser le système éducatif. C'est-à-dire que quand le pacte pour la réussite éducative promeut une conception de l'acte d'éducation comme un acte d'éducation globale, c'est une révolution copernicienne qui nous est demandée, puisqu'il s'agit finalement de regarder notre système autrement. Et je dirais que finalement, ce qui n'est pas une boutade pour moi, je le dis toujours, la réussite éducative, elle concerne moins les élèves en éducation prioritaire que les élèves qui sont hors de l'éducation prioritaire. Autre convergence entre l'éducation prioritaire et la réussite éducative, la prise en compte du territoire. Alors, bien évidemment, il y a une convergence de dates entre les mouvements de déconcentration, les mouvements de décentralisation, la politique de l'éducation prioritaire, les années 80. À ce moment-là, et puis l'initiation de la politique de la ville aussi, à ce moment-là, le territoire est à la fois source des questions scolaires à traiter, et en même temps, le lieu de solution des questions scolaires qui sont posées. Et ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, on pourrait penser que cette ouverture de l'école sur son territoire date des années 80. Or, elle date d'un siècle plus tôt, puisqu'on trouve dans la première édition du dictionnaire de pédagogie et d'instruction de Buisson, la question de l'ouverture de l'école sur ces territoires. Donc c'est une question qui n'est pas nouvelle. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, cette ouverture de l'école sur son territoire, si elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas acquise. Loin de là. Et elle s'oppose d'une certaine manière, en fait, à l'idée que l'école, mais ça c'est lié à son histoire, mais je vais y revenir, a été pensée dans ses débuts comme un sanctuaire. Le philosophe Alain disait l'école sanctuaire. Liée dès l'origine à la République, l'école avait pour mission donc de former des citoyens dans une France qui était très rurale, très faiblement scolarisée et où la langue française était loin d'être majoritaire. Donc l'ambition de scolariser les enfants, d'instruire les enfants, était de les soustraire à leur milieu. Et l'instituteur s'adressait finalement non pas à l'enfant, non pas à l'adolescent, mais à un élève détaché de tout ce qu'il était socialement, de tout ce qu'il était culturellement. Les origines sociales, les particularismes culturels et les autres et autres croyances religieuses, on est avant la loi de 1905, sont considérés comme autant d'obstacles pour l'édification finalement de citoyens qui doivent être porteurs de science et de progrès. Je cite un instituteur la fin du 19e qui disait « Le patois est le premier ennemi de l'enseignement du français dans nos écoles primaires. » Donc l'école s'est construite, pour reprendre les termes de Ferry, contre l'esprit rétrograde des cléricaux, des conservateurs, qui dominent donc encore cette France rurale. Elle s'était aussi édifiée contre les familles. Marie-Cap Carpentier, nous avons une salle Marie-Cap Carpentier à la DGESCO, disait « En France, la langue du peuple est incorrecte et sans élégance. Nous ne tolérerons rien qui soit radicalement contraire aux règles de la langue et nous commencerons ce redressement dès que nous recevrons l'enfant des mains de sa mère. » 1876. Donc l'école s'est construite contre les familles, elle s'est construite aussi contre les territoires, et l'école finalement entend séparer et protéger les enfants contre les mauvaises influences, je cite Ferry, contre les ingérences, je cite Ferry, des pouvoirs locaux, des prélats, des patrons et du milieu familial. À l'époque, certains considèrent qu'effectivement, il faut envahir les familles par l'école. Et en même temps, c'est là tout le paradoxe de notre histoire, c'est que l'école ne s'est jamais vraiment émancipée de ses territoires. Et reconnaissons notamment la prégnance de l'enracinement local des écoles primaires. Et je vous renvoie notamment à un livre que j'aime beaucoup, de Jean-François Chanet, qui s'appelle « L'école républicaine et ses petites patries », où il montre ça justement, qu'il y a ces deux tendances, à la fois la volonté effectivement d'émanciper l'enfant et l'école des territoires, et en même temps la prégnance du local. Peut-être que la différence entre aujourd'hui et hier, c'est que aujourd'hui, le local n'est plus perçu comme une menace, mais qu'il est perçu comme une ressource. Cette volonté de territorialisation de l'action publique depuis plus de 30 ans, et notamment de l'éducation, traduit aussi une nouvelle gouvernance publique, c'est-à-dire une volonté de l'État de laisser aux acteurs une latitude d'action pour finalement définir les modalités de mise en œuvre des orientations nationales et leur rendant d'une certaine manière le statut d'agent et non plus simple d'acteur plutôt et plus seulement d'agent. Et en même temps, par là même, par ce mouvement-là, l'État reconnaît la prégnance des besoins et la singularité des territoires. Mais quand on parle de territoire, on parle aussi d'inégalité territoriale. Et effectivement, si on regarde l'éducation prioritaire, la carte de l'éducation prioritaire, et ce qu'on a fait, le renouvellement, ou en tout cas la reconfiguration de cette carte, qui n'avait pas bougé depuis, ou en tout cas qui s'était étendue, mais qui n'avait pas été repensée depuis 81, c'est qu'effectivement, les inégalités se sont déplacées. Et donc, on a repensé cette carte de l'éducation prioritaire avec 4 critères, qui sont comme tout critère arbitraire, sont objectifs, c'est des indicateurs, mais ils sont arbitraires, puisque c'est ceux qu'on a choisis. On aurait pu en prendre d'autres. Donc, on a choisi la part des élèves appartenant au PCS défavorisé, la part des élèves boursiers, la part des élèves résidant en zone éducation sensible, en zone urbaine sensible, pardon, et la part des élèves qui arrivent en classe de 6e avec au moins un an de retard. À partir de là, et en reprenant ce que je viens de dire sur le fait que l'État laisse bien qu'ils définissent des orientations, les territoires et donc pour nous les académies décidées, nous avons effectivement donné à l'ensemble des recteurs ce qu'ils devaient, éventuellement, je dirais, leur quota de sortie, leur quota d'entrée, et dans un dialogue avec eux, ce qui leur paraissait le plus pertinent compte tenu de la connaissance qu'ils pouvaient avoir de leur territoire. Il n'a pas été question pour nous de dire cela rentre, cela sort, c'était à eux de dessiner avec les contraintes qui étaient les leurs, quels étaient ceux qui pouvaient rentrer, ceux qui pouvaient sortir. Donc aujourd'hui, on a une carte avec 1089 réseaux outre-mer compris. Et c'est une carte qui a vocation à être révisée tous les 4 ans. Sur cette question des inégalités territoriales, je voudrais aussi vous renvoyer à un très beau document qui a été réalisé par l'ADEP et qui s'appelle « L'Atlas académique des risques sociaux d'échecs scolaires, l'exemple du décrochage » ou académie par académie, à l'échelle territoriale, il montre effectivement les risques en prenant un certain nombre d'indicateurs là aussi, mais sous forme de cartes. Et je trouve que c'est un document absolument intéressant d'abord, d'un point de vue de la connaissance qu'on peut avoir des risques sociaux d'échecs scolaires, et qui peut aider véritablement voilà, à l'analyse qu'on peut faire d'un territoire et de son territoire. Donc la question à laquelle on est confronté finalement, c'est comment on prend en compte les spécificités d'un territoire sans renforcer les inégalités territoriales. Comment ne pas enfermer les élèves au sein d'un territoire? Comment faire pour que le territoire soit pensé comme un espace de projet, comme un champ des possibles, alors qu'il peut parfois être vécu comme un espace d'assignation sociale, surtout lorsque ce territoire est stigmatisé? Espace d'assignation sociale au sein desquels, évidemment, les élèves et leurs familles se sentent enfermés, peuvent se sentir en tout cas enfermés, limités, n'ayant pas du tout, pas beaucoup, les moyens économiques, sociaux et culturels de partir. Alors, l'ouverture de l'école sur son territoire renvoie évidemment à un principe qui est le principe de la responsabilité partagée de l'éducation. C'est-à-dire que depuis une circulaire interministérielle avec le ministère de la Ville, d'une circulaire interministérielle des années 2000, l'éducation nationale reconnaît que l'éducation est une mission partagée. Donc ça veut dire qu'elle est partagée avec d'autres. Alors, elle est partagée effectivement avec les parents. Alors, lesquels, comme je viens de le dire, n'ont pas toujours été associés, n'ont pas toujours été reconnus comme des interlocuteurs légitimes de l'école. Et il faut savoir qu'en fait, ils ont eu cette place, cette reconnaissance, qu'à partir du XXe siècle, en effet, c'est à partir de 1968 qu'ils peuvent participer au conseil d'administration et au conseil de classe, pour les collèges et les lycées, et en 77 pour les conseils d'école. L'application attendue des parents se produit d'une certaine manière au même moment où se met en place le collège unique. Collège unique, la loi Habit 1975. Et deux lois reconnaissent effectivement la nécessité d'associer les parents. La loi d'orientation de 89, qui dit il faut associer les parents au fonctionnement de l'école et en faire des partenaires à part entière de la communauté éducative. Et puis la loi d'orientation de juillet 2013, qui entend renforcer la coopération entre les parents et l'école à travers différents articles, notamment celui-ci, le premier qui est l'article 111.1 du Code de l'éducation, qui dit ceci: l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre aussi la circulaire interministérielle du 15 octobre 2013 relative au renforcement de la coopération entre les parents les plus éloignés de la culture scolaire et l'école. Donc, responsabilité partagée avec les parents, responsabilité partagée avec d'autres ministères. Celui de la ville, bien sûr, j'en ai parlé au début avec les PRE, mais aussi avec celui de la justice, notamment dans les dispositifs relais, celui du sport et de la jeunesse, et celui de la culture, et puis d'autres partenaires, les collectivités territoriales, qui au-delà d'une certaine manière des compétences obligatoires définies par les lois de décentralisation, et selon le principe de libre administration, sont affirmées comme des acteurs éducatifs à part entière. À côté de ces partenaires, il y a les associations d'éducation populaire qui assurent les activités complémentaires dans le cadre de l'accompagnement éducatif ou de l'école ouverte, par exemple. L'article 111.11.1 stipule ceci aussi, c'est le dernier alinéa, pour garantir la réussite de tous, l'école s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative, qui comprend bien évidemment les partenaires. Alors, autre texte, j'en ai parlé, qui reconnaît la place des partenaires, puisqu'il en fait le titre de son axe 3, c'est le référentiel de l'éducation prioritaire, puisque cet axe 3 s'intitule ainsi: mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire. Quel est l'enjeu du partenariat, ou plus largement de la responsabilité partagée de l'éducation et de son principe de coéducation qui est initié par la loi de juillet 2013? D'abord, coéduquer, c'est prendre en compte l'enfant, l'adolescent dans sa globalité. Le prendre tel qu'il est, non pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit, pour l'élever au sens plein du terme. C'est aussi créer les conditions pour mobiliser à l'échelle d'un territoire un réseau de partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, pour penser et mettre en œuvre une politique qui soit cohérente, politique éducative qui soit cohérente, et qui soit construite conjointement avec l'école. Des outils existent, tels que le PEDT, tels que les contrats de ville. Ils existaient, le PEDT existait sous d'autres formes, je pense notamment au PEL. L'étape qui reste, c'est de les investir et de leur donner du sens, au sens de direction et d'orientation. C'est reconnaître aussi que l'école ne peut pas tout seule et que la logique collective du travail conjoint, que je préfère largement à la notion de partenariat, doit prévaloir sur la logique individuelle du chacun pour soi, voire du chacun chez soi. L'éducation partagée doit assurer cohérence, continuité, complémentarité des apprentissages dans et hors la classe, dans et hors l'école. Et d'une certaine manière, ça n'est qu'à cette condition que nous pourrons donner du sens à l'acte éducatif et rendre l'élève, l'enfant, l'adolescent acteur de ces apprentissages. Il faut passer donc d'une école moins centrée sur elle-même, plus ouverte sur ses territoires et sur les parents, sur les partenaires, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quelles conditions. Car évidemment, le travail conjoint, le partenariat, est rarement élaboré sous la forme d'un authentique dialogue. Et souvent, ce qu'on observe, ça relève plutôt de la prestation de service, parfois de la sous-traitance, parfois de la délégation, et chacun d'entre vous peut avoir en tête un certain nombre de dispositifs partenariaux qui existent et qui prennent en charge les élèves sur le temps scolaire, élèves victimes d'exclusion, élèves en dispositif relais, par exemple. Cette externalisation des élèves, souvent les plus fragiles, lorsqu'elle n'est pas articulée avec l'école, et notamment lorsque leur réintégration et leur retour au sein de l'établissement, au sein de la classe, n'est pas travaillée, offre effectivement l'exemple typique d'un partenariat mal compris parce que pas ou peu construit. Je renvoie aux travaux de Benjamin Moignard et aux travaux de Marie Zesterl sur les dispositifs de prise en charge des élèves exclus notamment. Or, évidemment, le partage de la responsabilité éducative est exigeant. Il ne s'agit pas d'avoir une approche cloisonnée du travail éducatif. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir pour les uns des missions nobles et pour les autres des missions vulgaires, mais d'en faire un travail, un objet de travail conjoint, et peut-être, on peut espérer que le nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture permette cette articulation et permette d'être un objet commun de travail, effectivement, sur la continuité, la complémentarité et la cohérence des apprentissages. Chacun sait bien aussi qu'au début d'un travail partenarial, d'un travail conjoint, ce qui existe, c'est, en général, on s'est mis d'accord sur le problème à résoudre. On a aussi en commun la volonté d'agir. Après, les intérêts, les objectifs, c'est là où ça commence à être un petit peu plus compliqué de se mettre d'accord. Et c'est une expression que j'aime beaucoup, qui définit le partenariat comme ça, et qui dit finalement le partenariat, c'est un minimum d'actions communes négociées visant à la résolution d'un programme reconnu commun, ou, pour le dire autrement, dans une approche un peu plus poil à gratter, je dirais, ce que dit Corinne Mérini en disant finalement le partenariat, c'est un lieu de conflit négocié. C'est un lieu de conflit négocié, effectivement, de logique, de codes d'intérêt qui sont nécessairement divergents. Pourquoi nécessairement divergents ? Parce que quand on travaille autour d'une table et qu'on est d'institutions différentes, on a des identités différentes. Et la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on défend son institution et jusqu'où on se descend par rapport à son institution. Et jusqu'où je vais pour effectivement négocier l'action, les modalités, les objectifs, les conditions éthique aussi, de réalisation, l'évaluation de ce sur quoi nous sommes en train de travailler, ce que nous sommes en train de construire. Et donc les négociations de l'action finalement, c'est-à-dire ses objectifs, ses conditions, son évaluation, etc., sont centrales pour structurer les opérations, les modalités en découlant, et surtout pour permettre une interpénétration des univers professionnels par une meilleure connaissance et par un meilleur respect de ce que fait chacun. Donc travailler ensemble, façonner une culture commune à partir de formations conjointes, par exemple, sont autant d'objets à construire, de principes d'action à définir, dans une logique de collaboration, de coéducation. Et de ce point de vue-là, je pense que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Mais nous ne le réussirons, ce travail, que si nous le faisons ensemble. Voilà, je vous remercie.